Amen. Gloire au Seigneur. Bien le bonjour à chacun et à chacune. Nous sommes très heureux d'être assemblés dans la présence du Seigneur. Et je tiens à vous saluer, ma femme vous salue. Et nous tenons à saluer ceux qui sont en face de leurs écrans, de Zoom ou alors les frères et sœurs qui sont en bas. Que le Seigneur soit béni et que nous soyons aujourd'hui les objets de sa grâce, les objets de sa bénédiction, que son nom soit béni. Alléluia. J'aimerais faire une lecture avec vous dans l'évangile selon Saint Matthieu. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 3, et le verset 13. Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista point. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affliction, que Dieu bénisse pour nous sa parole. » Le sujet de ma méditation ce matin, et cela sans aucune prétention, c'est le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. L'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, et j'aimerais vous dire tout de suite que ce que je vais vous dire ne sera qu'indicatif, parce qu'il n'est pas possible de concevoir et de dire tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a vécu. En effet, dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 21, verset 25, Jean nous dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. » Et si on les écrivait en détail, je ne pensais pas que le monde puisse les contenir. C'est vrai que Jésus a fait énormément de choses, beaucoup de choses, des milliers, des millions de choses, mais tout n'est pas dit, tout n'est pas écrit. Et c'est normal. Dans Deutéronome 29, 29, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. » Donc il y a des choses qui nous sont révélées, la parole de Dieu, nous pouvons la lire, l'étudier, etc. Mais il y a des choses que nous ne saurons jamais, elles sont en Dieu, elles sont cachées en Dieu. Dieu ne les a pas révélées, mais elles sont en lui. Alors nous allons essayer seulement de voir quelques points de l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Évidemment, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire la conception et la naissance de Jésus. La conception et la naissance de Jésus, ça a été évidemment par l'action du Saint-Esprit, autrement, cela n'aurait pas pu se faire. Dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, verset 35, évangile de Luc, chapitre 1er, verset 35, c'est là. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda.
elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Comment m'est-il accordé que la main de mon Seigneur vienne sur moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse est celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce n'est pas ce verset, c'en est un autre. Pardon ? Ce n'est pas ce verset 35. 1.35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et voici Élisabeth, sa parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était stérile et dans le sixième mois. Car nul, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, et l'ange la quitta. Ça c'est au début de l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Et la conception de Jésus dans le sein de Marie et Saint-Esprit sont des mystères, sont des miracles, mais c'est des mystères, bien sûr. Mais ils ne sont pas plus grands que la conversion et la nouvelle naissance d'un pécheur. Parce qu'un homme qui se tourne vers Dieu, une femme qui se tourne vers Dieu, et qui se convertit vraiment, qui est né de nouveau, eh bien c'est pas naturel, c'est surnaturel, c'est l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas le produit de l'effort humain, de la sagesse humaine, c'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur de cet homme ou de cette femme, bien sûr. Et nous devons, me semble-t-il en tout cas, prier pour qu'il y ait dans les églises beaucoup de vraies conversions, beaucoup de nouvelles naissances. Parce que malheureusement, il s'est glissé dans les églises des hommes, des femmes, des gens qui ont l'apparence de la piété, qui ont le vocabulaire chrétien, qui ont les dehors d'une vie chrétienne, mais n'ont pas la réalité. Ils n'en ont pas la force. Et la force de la piété, c'est quoi? La force d'une vraie conversion, d'une vraie nouvelle naissance, c'est quoi? Bien, c'est la foi et l'amour de la vérité. C'est la foi dans le Seigneur et l'amour de la vérité. Et on peut se poser la question sans savoir comment un homme, une femme, peut-il ou peut-elle naître de nouveau? Comment ce miracle peut-il se faire? Quelles sont les dispositions du cœur, s'il y en a, pour que le Saint-Esprit travaille ce cœur et fasse en sorte qu'il naisse de nouveau? Dans nos rapports avec Dieu, il n'y a qu'une chose que Dieu demande. Il ne nous demande pas de décrocher la lune. Il ne nous demande pas de faire des miracles, et ne demande pas de nous offrir un sacrifice sur un bûcher quelconque, il n'y a qu'une seule chose qui nous demande peut-être, vais-je vous étonner, voire vous scandaliser ce matin, il n'y a qu'une seule chose qui nous demande, dans tous nos rapports avec Dieu, Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est de croire. Et croire quoi? Quand j'étais à Bastia, je parlais souvent de la foi, mais pas de la foi du charbonnier. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je crois tout. Et on appelle ça la foi du charbonnier. Et un jour, un frère de l'Assemblée m'a dit, arrêtez de dire la foi du charbonnier, parce que le pasteur protestant d'à côté, il s'appelle charbonnier. Mais moi, je ne savais pas. Je parlais de la foi du charbonnier comme ça, parce qu'il y a une quantité de gens qui disent, moi, je crois tout, je crois tout. Non, non, nous ne sommes pas appelés à croire tout, mais nous sommes appelés à croire une chose. Croire quoi? Croire ce que Dieu dit. Croire la parole de Dieu, croire ce que Dieu dit. Évidemment, il y a beaucoup de choses, nous l'avons vu tout à l'heure, il y a des choses que nous ne connaîtrons jamais. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses que nous ne connaîtrons jamais, dans le ciel, nous les connaîtrons probablement. Mais pendant notre pèlerinage terrestre, il y a des choses qui nous sont cachées, mais ce que nous savons, c'est que nous sommes appelés à croire. À croire quoi? Ce que Dieu dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, il dit beaucoup de choses. Il dit beaucoup de choses, je le répète. Nous sommes appelés à croire, parce que Dieu le dit, qu'il est grand. Vous croyez que Dieu est grand? Croire que Dieu est grand. Croire que Dieu est tout-puissant. Il est omnipotent. Croire que Dieu est plein d'amour, et qu'il nous aime, et qu'il aime même la pire créature, cet homme, cette femme, qui ne vaut pas la corde pour le pendre, eh bien Dieu l'aime quand même. Alléluia, Dieu l'aime quand même. Hein? Croire que Dieu pardonne, et que Dieu pardonne le péché le plus grave, que Dieu croire que nous ne méritons rien, si ce n'est la condamnation en perpétuité, bien sûr, parce que nous sommes pécheurs et la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un jour, je parlais en bas quand nous mangeons à midi avec un monsieur, je lui parlais de cela. Et je lui ai dit, tous ont péché et vous êtes aussi un pécheur. Ah, il me dit de manière un peu superficielle, oui, j'ai commis des péchés. Et non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que l'homme est pécheur de manière intrinsèque. Au-dedans de lui, il est pécheur. Qu'il le veuille ou pas, il est pécheur. En parole, en pensée, en acte, il est pécheur. Sa nature est pécheresse. Et ça, c'est ce que Dieu dit, et nous devons le croire, bien sûr. Croire que nous ne méritons rien. Nous sommes privés de la gloire de Dieu puisque nous sommes des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par la grâce en Jésus-Christ. Le deuxième point où Jésus fut visité par le Saint-Esprit, c'est quand il fut baptisé d'eau. Quand il fut baptisé d'eau, le Saint-Esprit vint sur lui et on entendit une voix, celui-ci nous l'avons lu, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, et le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe, symbole du Saint-Esprit, la colombe blanche. Par le baptême d'eau, Jésus se consacra à Dieu. La conversion est avant le baptême, pas après. Le baptême, ce n'est pas la conversion. La conversion, c'est un acte intérieur. C'est le cœur qui change. Et Le baptême, c'est la confirmation extérieure, matérielle, de ce qui s'est passé dans le cœur. C'est comme deux êtres qui s'aiment, un homme et une femme qui s'aiment, eh bien, s'ils se marient, ils ne font qu'exprimer cet amour par le mariage, mais l'amour existe avant. Donc, par le baptême d'eau, Jésus se consacra à Dieu. Et il dit à Jean-Baptiste, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Imaginez que c'est Jésus qui parle comme cela. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il y a deux adjectifs qui ont frappé mon attention. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et cela se concerne Jésus. Il se concernait lui-même. Il disait que pour lui, c'était juste qu'il se fasse baptiser. C'était normal et convenable qu'il se fasse baptiser. Or, si Jésus a dit cela pour lui, alors qu'il n'a jamais commis le moindre péché, alors qu'il n'avait pas besoin de se repentir, alors qu'il n'avait pas besoin de toutes ces choses, eh bien, il considérait que c'était juste et normal qu'il accomplisse cela. Jésus donc considérait que c'était juste et même convenable. À combien plus forte raison pour l'individu que nous sommes, les pécheurs que nous sommes, qu'il soit normal, convenable et juste que notre cœur se tourne vers le Seigneur et que nous soyons engagés avec le Seigneur. C'est juste, ce n'est pas, comment dirais-je, un sacrifice. J'en parlerai tout à l'heure de sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice. C'est naturel. Je suis un pécheur et je viens à Dieu pour qu'il écrive mon nom dans son livre de vie, que son nom soit béni. Par le baptême d'eau, Jésus anticipa sur la croix. Sur la mort physique qu'il allait endurer. Le baptême, c'est l'image de la mort. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été ensevelis. C'est une image de la mort. Pour chaque croyant, le baptême, c'est l'entrée dans une vie nouvelle. Amen. L'entrée dans une vie nouvelle. Ce n'est pas devenir religieux. Ce n'est pas faire partie d'une église. Ça, ce sont les extérieurs. Mais la réalité, c'est la nouvelle vie qui commence, et qui consiste désormais à ne plus vivre pour soi-même et par soi-même. Il vit en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, c'est donc mourir à soi-même. Ça, c'est une vision des choses qui est difficile à assimiler. C'est une vision qui est difficile à admettre, à accepter. Mourir. Mourir à soi-même. Mourir à ses propres intérêts. Mourir à sa propre justice. Mourir à soi-même, ne plus rien réclamer du tout. J'ai raison, mais je m'en fiche. Je ne cherche pas à clamer mon innocence, à proclamer ma justice. Non, je suis mort à moi-même. Jésus ne s'est jamais défendu. Quand on l'a saisi pour le crucifier, il n'a pas dit « c'est pas juste, c'est pas normal, hein, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, il s'est laissé faire. Et un chrétien ne défend pas ses intérêts. Un chrétien est mort à lui-même. Et c'est pourquoi Jésus, parce qu'il s'est comme ça consacré, c'est pourquoi le Saint-Esprit a baptisé Jésus. C'est pourquoi il a été baptisé du Saint-Esprit. un autre point de l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Dans Luc 4, il est écrit que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour y être tenté. Je trouve ça absolument extraordinaire que le Saint-Esprit lui-même, j'allais dire, prend Jésus par la main, c'est pas le cas, mais il conduisit Jésus dans le désert, non pas pour le bénir, non pas pour l'enrichir, non pas pour le fortifier, pour qu'il y soit tenté. Pour qu'il y soit tenté par le diable. Et c'est dans le désert qu'il fut éprouvé. Il fut défié. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, prouve-le que tu es le Fils de Dieu. Est-ce qu'il ne nous arrive pas, quelquefois, qu'il y a des pensées qui traversent notre esprit, prouve que tu es un chrétien. Nous n'avons rien à prouver du tout. Et Jésus n'a pas cherché à prouver qu'il était le Fils de Dieu. Et nous n'avons pas à prouver notre appartenance au Seigneur. Nous sommes au Seigneur, le Seigneur le sait, et nous aussi nous le savons. Et même si le diable nous dit, si tu es un vrai chrétien, si tu es un enfant de Dieu, eh bien fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, fais cela. Non. Il fut défié pour y semer le doute dans son cœur. Il fut testé. Il fut éprouvé jusqu'au profond de son âme. Il fut tenté par la vision du pouvoir. Le diable lui a dit, si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai tous les royaumes de cette terre. Tu seras le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais le seigneur n'avait pas besoin du diable pour être le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il l'était quand même, que son nom soit béni. Il a reçu cela de Dieu, non pas de son adversaire. Quoique ces choses paraissent négatives, et elles sont apparemment négatives, il est tenté, il est éprouvé, il est testé, etc. Elles étaient néanmoins nécessaires pour que Jésus, comme en toute chose, soit un exemple et un modèle pour chacun de nous. S'il est passé par ce chemin-là, il ne faut pas que nous nous révoltions si nous passions par ce chemin. Il nous arrive, peut-être pas vous, mais moi, ça m'est arrivé que deux fois, de passer par le désert de la maladie, par le désert du besoin, par le désert de l'incompréhension de mon entourage. J'étais comme dans le désert, et j'aurais voulu me révolter, et dire pourquoi. Et je réponds pourquoi pas. Hein? Si c'est arrivé au Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arriverait-il pas? S'il a été tenté, éprouvé, jusqu'au plus profond de son âme, pourquoi est-ce que cela ne m'arriverait pas? C'est normal que cela m'arrive. C'est normal que cela nous arrive. Mais il faut aussi que nous ayons l'attitude que Jésus a eue dans ce moment-là. Il n'a pas cédé. Il n'a pas dit au diable, tu as raison, je vais faire ce que tu me dis. Non, il n'a pas cédé, il est resté ferme dans ses positions. Un peu plus loin, après avoir été tenté, Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et nous pouvons dire qu'à partir de ce moment-là, quand il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, notez que dans un premier temps, le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe, et après, il a été visité par le Saint-Esprit, et il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il avait besoin de ça. Parce que la suite de sa vie nous montre qu'il avait besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il allait commencer son ministère. Hein, voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, pour etc. Il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et savez-vous, mes frères et sœurs, que c'est notre besoin à chacun de nous que d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Oui ou non ? Que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit de la puissance du Saint-Esprit, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et par voie de conséquence, nous sommes serviteurs et servantes du Seigneur. Et il peut se faire que par des recoupements, le Seigneur nous place devant un besoin particulier où la puissance du Saint-Esprit devrait se manifester. Mais si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, comment va-t-elle se manifester? Si je ne suis pas prêt, si je n'ai pas demandé au Seigneur qu'il me remplisse du Saint-Esprit, eh bien je vais trouver un besoin auquel je ne répondrai pas, devant lequel je resterai les bras ballants, je ne pourrai rien faire parce que je n'ai pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Dieu veuille, frères et sœurs, ouvrir nos yeux sur cette réalité et créer en nous ce besoin. Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit, parce que je vais sortir de chez moi ou de mon travail et je me trouver devant un besoin. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui est complètement parti de la tête, et j'aurai besoin, non pas d'un raisonnement psychologique, mais ce besoin qui est devant moi a besoin de l'action, de la puissance du Saint-Esprit que je dois manifester. Alléluia. Frères et sœurs, je vous encourage dans ce sens-là. Les apôtres, les premiers chrétiens, ont fait la même expérience. Dans le livre des Actes des apôtres, c'est ce qui leur est arrivé. Tout à coup, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur eux, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et à partir de ce moment-là, 3000 âmes se convertirent, et plus tard, 5000 âmes se convertirent. Pourquoi? Parce qu'elles étaient remplies du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le bavardage qui est intéressant. Ce n'est pas le bavardage qui est utile. Ce n'est pas les raisonnements humains. Parce que il y a des gens qui voudraient discuter avec nous. Non, moi je ne veux pas discuter. Je ne cherche pas à convaincre les gens que j'ai raison. Non. Ce que je veux, c'est rendre témoignage de l'œuvre de Dieu dans ma vie et dans la vie de ceux que le Seigneur m'a confié, que son nom soit béni. Il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais vécu que par la puissance du Saint-Esprit. Il n'a plus pensé que par le Saint-Esprit. Il ne parla et ne travailla que par la puissance du Saint-Esprit qui émanait de sa personne, que son nom soit béni. J'ai fait allusion tout à l'heure et émerveillé de constater que les disciples, les premiers chrétiens, furent remplis de la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, exactement comme Jésus. Encore un point dans Hébreux 9, 14, je ne vais pas le lire. Jésus s'offrit en sacrifice par le Saint-Esprit. Dans un esprit éternel. Il ne faut jamais oublier que la décision de Jésus de se sacrifier pour nous remonte à l'éternité, bien avant la création du monde. Déjà dans l'éternité, il avait décidé de venir sur la terre et mourir. Mais cela, c'est le Saint-Esprit qui était déjà avec lui dans l'éternité et qui l'a poussé à venir sur la croix du calvaire. C'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Et le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est un esprit de sacrifice. Jésus ne s'est sacrifié que poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de lui-même seulement, mais c'est sous l'action du Saint-Esprit qu'il est venu pour monter sur la croix du calvaire. Et le Saint-Esprit, je l'ai dit et le répète à dessein, est un esprit de sacrifice. Mais un sacrifice, par voie de définition, est-ce que ça coûte ? David avait dit que l'Éternel me garde d'offrir à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Parce qu'un de ses hommes lui avait offert des bœufs, lui avait offert du bois, et il lui dit, allez, sacrifier à l'Éternel. Il lui a dit, non, je vais payer des deniers pour faire un sacrifice, que l'Éternel me garde d'offrir un sacrifice à l'Éternel qui ne me coûte rien. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je vous pose une question, mais je ne vous demande pas de me répondre. Répondez dans votre cœur. Est-ce que vous avez quelque chose à sacrifier? Ne répondez pas. Est-ce que vous avez quelque chose à sacrifier? Je répète une troisième fois que ça rentre dans votre cœur. Est-ce que j'ai quelque chose à sacrifier? Eh bien, je réponds non. Parce qu'on ne sacrifie pas ce qui ne nous appartient pas. L'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et ce que nous avons, nous pensons que c'est bien à nous ? Non ! Nous l'avons reçu ! Même la vie, même la santé, même l'argent, même le mari et la femme, même les enfants, ils nous ont été donnés. Ce qui fait que notre sacrifice n'est pas un vrai sacrifice. On ne sacrifie pas ce qui ne nous appartient pas. On ne sacrifie pas ce qui ne nous appartient pas. En fait, on l'abandonne au Seigneur. On lui dit, Seigneur, c'est entre tes mains. C'est à toi, Seigneur, c'est pas à moi. Est-ce que ma vie m'appartient? Est-ce que je suis capable de conserver ma vie? Est-ce que mes enfants m'appartiennent? Demandez-leur. Hein? Est-ce qu'ils vous appartiennent, vos enfants? Est-ce qu'ils font toujours ce que vous voulez qu'ils fassent? Non. Ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils s'appartiennent d'abord. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Donc, rien ne nous appartient, donc nous ne faisons aucun sacrifice. Nous ne pouvons-tu pas dire avec David que l'Éternel me garde d'offrir à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Il voulait payer ses vaches et son bois. Oui, c'est humain, mais ce n'est pas notre cas. Et puis, Jésus ressuscita par le Saint-Esprit dans 1 Pierre 3:18. Et c'est pareil pour nous, le même esprit qui ressuscitera les enfants de Dieu lors de l'enlèvement de l'Église. Voilà donc, frères et sœurs, les étapes, et il y en a eu d'autres, que je n'ai pas trouvées mais qui sont dans la parole de Dieu, les étapes qui marquèrent l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'est qu'indicatif, c'est-à-dire... Ce sont des points de repère, pas plus. Mais je rappelle qu'il y a eu beaucoup plus d'événements que les apôtres n'ont pas pu raconter. Pour terminer, je crois qu'il faut se dire certainement, les uns et les autres, que nous n'avons pas vécu tout ce que le Seigneur aurait voulu que nous vivions. Tout ce que le Seigneur aurait voulu que nous vivions, qu'il a préparé pour nous, et nous sommes passés à côté, pour des raisons que j'ignore, et je ne veux pas savoir. Mais en tout cas, et c'est ma dernière recommandation, s'il en est, il ne faut pas se dire, les uns ou les autres, il ne faut pas se dire, ça y est, je sais tout. Ça y est, j'ai tout vécu. Ça y est, je connais le Seigneur parfaitement. C'est se mettre le doigt dans l'œil, ça. Hein? C'est se tromper lourdement. Non, je crois que, frères et sœurs, sincèrement, il faut avoir soif. Et Jésus le dit dans l'évangile selon saint Jean, ou saint Luc, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il faut avoir soif des choses de Dieu. Il faut avoir soif de la présence de Dieu, du secours de Dieu, de l'action de Dieu dans notre vie. Ah, oh, que c'est merveilleux quand Dieu emploie un homme, une femme, pour le salut de quelqu'un, pour la guérison d'un autre. Ce sont des choses merveilleuses. Et Dieu n'est pas mort. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, que son nom soit béni. Alléluia. Et ces étapes dans la vie de Jésus sont aussi les nôtres. C'est aussi ce que le Saint-Esprit a fait ou fera dans la vie de chacun de nous. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est exactement comme Jésus est né. Par l'action du Saint-Esprit, Marie est devenue enceinte, et puis Jésus est né. C'est pareil pour nous, quand nous sommes convertis, ou plutôt quand nous sommes nés de nouveau, eh bien c'est l'action du Saint-Esprit, c'est pas nous. Nous n'avons pas décidé de naître de nouveau, mais le Saint-Esprit a travaillé notre cœur, nous a convaincus de péché, nous avons tourné le dos à notre péché, et comme le disait un frère qui est pasteur à Paris, « Je hais mon ancienne vie, je hais mon ancien moi, je le hais parce qu'il m'a fait faire des bêtises. » Que Dieu nous aide et nous conduise un peu plus loin. Nous bénissons et nous louons ton nom, Seigneur.